Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RFI, les 5h à Paris, 6h à Gaza.
Léa Boutin-Rivière.
Les appels de la rue, de la société civile, de la communauté internationale n'y font rien. Israël multiplie les bombardements contre la bande de Gaza. Affligée de frappes, l'enclave palestinienne manque aussi cruellement de nourriture. Du sable dans les rues, dans les airs et dans les poumons, en Irak, les tempêtes de poussière sont arrivées en avance cette année. Elles se conjuguent désormais à des températures écrasantes, un véritable risque de santé publique, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la fin d'un conflit long de 56 ans entre l'île Maurice et le Royaume-Uni. Et puis ce constat, les migrants qui arrivent en France sont de plus en plus diplômés. Les appels à la retenue n'ont pas suffi, les tentatives de négociation non plus. Alors, l'Organisation mondiale de la santé en appelle maintenant à la pitié d'Israël. Hier, son patron Tedros Ghebreyesus a estimé que la mansuétude serait bonne pour Israël et plus largement pour l'humanité. Mais pour l'heure, l'État hébreu reste sourd aux cris des acteurs internationaux. Hier encore, les frappes se sont poursuivies, faisant 52 morts au moins, selon la défense civile palestinienne. Bombardée sans relâche, déplacée sans cesse, la population est aussi tenaillée par la faim. Il est injuste de faire de la nourriture une arme, s'est insurgé l'OMS. L'aide entre de nouveau au compte-gouttes dans l'enclave après près de 3 mois de blocus total, mais en quantité largement insuffisante, comme le raconte ce témoignage recueilli par Sami Boukhalifa.
Taïma ne mange plus grand-chose. Le peu de nourriture qu'il lui reste, elle le réserve à sa fille âgée de 4 ans.
J'ai pu trouver de la fécule de maïs, de la maïzena. J'en mets une cuillère dans un verre d'eau et je le donne à boire à la petite. Comme il n'y a plus de pain, c'est une sorte de substitut de repas.
Sur les marchés de Gaza, les rares légumes disponibles sont hors de prix. La mère de famille affirme avoir trouvé de la farine de blé infestée d'insectes à plus de 40 euros le kilo. Beaucoup trop cher, inaccessible pour elle. Alors, elle attend, elle espère l'arrivée de l'aide humanitaire.
Depuis ce matin, on entend dire qu'ils ont reçu de la farine dans le sud de la bande de Gaza. Mais ici, dans le nord, il n'y a toujours rien.
Après deux mois et demi de blocus total, le premier ministre israélien a de nouveau autorisé l'entrée d'une petite quantité de nourriture à Gaza. Pas pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons diplomatiques, explique-t-il. Ajoutant, des amis d'Israël me précisent qu'ils ne pourront plus soutenir la poursuite de la guerre si des images de famine de masse à Gaza devaient être diffusées. Benjamin Netanyahou est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Sourd aux appels de la communauté internationale, Benjamin Netanyahou l'est aussi à ceux de sa population et de la justice. Hier, le Premier ministre a nommé un nouveau chef du Shin Bet, les renseignements intérieurs, et ce alors même que la procureure générale avait interdit une telle désignation. La réaction de cette dernière ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Selon elle, il y a de forts soupçons que le Premier ministre a agi en conflit d'intérêts et que le processus de nomination est, je cite, « vicié ». Israël choqué, bouleversé même, selon les mots du président Isaac Herzog, par l'assassinat de 2 employés de l'ambassade israélienne à Washington. Un Américain de 30 ans, Elias Rodriguez, a été inculpé hier. Donald Trump a dénoncé tôt dans la journée une attaque antisémite. Le président américain, qui n'aura pas réussi à déstabiliser son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, malgré la diffusion surprise d'une vidéo censée étayer un génocide blanc en Afrique du Sud. La présidence a estimé hier que la rencontre entre les deux hommes était un succès. Diplomatique peut-être pas, mais économique c'est certain. Les deux pays devraient prochainement renforcer leur commerce bilatéral et leurs investissements. Or, c'était bien là la priorité de Pretoria. Les États-Unis sont le 2e partenaire commercial de l'Afrique du Sud. Le 1er pays européen n'arrive lui qu'en 4e position. L'Union européenne célébrée en Côte d'Ivoire, plus précisément, une personnalité phare de l'UE, le président du Conseil, Antonio Costa. Ce dernier a été auréolé hier du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix, une récompense attribuée pour son engagement à défendre le dialogue et le multilatéralisme. La remise de ce titre s'est accompagnée d'une cérémonie officielle, a priori rien à voir avec la politique intérieure. Pourtant, à quelques mois de la présidentielle, l'ombre du scrutin plein est sur l'événement et le chef d'État Alassane Ouattara continue de jouer avec le suspense, Binta Diagne.
Face à un parterre d'officiels, le président ivoirien Alassane Ouattara expose sa vision de la paix. « Il faut privilégier le dialogue, dit-il, pour résoudre les crises au Soudan et en RDC ». Et lorsque le président ivoirien aborde la situation en Côte d'Ivoire, il glisse une touche d'humour.
Cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Dès que je prononce ce mot, tout le monde attend que je dise autre chose.
Alassane Ouattara invite les Ivoiriens, je cite, à privilégier l'intérêt national.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. C'est le lieu d'inviter l'ensemble de la population ivoirienne à s'approprier les idéaux de paix du président Félix Houphouët-Boigny et à privilégier en toutes circonstances l'intérêt national.
Au sortir d'un entretien avec le chef de l'État ivoirien, Antonio Costa, le président du Conseil européen, a une posture d'écoute.
La Côte d'Ivoire, c'est un État de droit et l'Union européenne reconnaît l'intégrité de son système judiciaire et donc respecte les décisions qui sont prises pour la justice ivoirienne. Mais évidemment, des élections existent en tant qu'élections libres et démocratiques quand elles sont plurielles.
À ce jour, 4 candidats de l'opposition sont inéligibles pour ce scrutin. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Il aura fallu 56 ans de négociations, mais ça y est, la discorde autour des îles Chagos semble être en passe d'être réglée. Le Royaume-Uni et l'île Maurice ont signé hier un accord de restitution de ces îles, plus d'un demi-siècle après qu'elles soient passées aux mains des Britanniques pour y installer une base américaine. RFI, il est 6h06 à Bagdad, où depuis plusieurs semaines, les habitants vivent régulièrement sous une chape de sable. Les tempêtes de poussière sont arrivées à la mi-avril, un mois et demi en avance. Et pour ne rien arranger, les températures estivales ont fait leur apparition cette semaine. 44 degrés dans la capitale irakienne hier. Un mélange de facteurs potentiellement fatal, Marie-Charles Troupy.
Le ciel de Bagdad se couvre régulièrement de nuages de poussière venus des zones désertiques de l'Ouest depuis plus d'un mois. La saison sèche est très en avance cette année. Elle a commencé mi-avril par un épisode exceptionnel. Une tempête de sable dans le sud de l'Irak a causé l'hospitalisation de 2700 personnes pour des problèmes respiratoires. Amr El-Jabari, porte-parole du département de météorologie à Bagdad.
Nous subissons les effets de dépressions atmosphériques d'Afrique du Nord, caractérisées par une sécheresse et un manque de pluie. Nous avons commencé à avoir de la poussière en suspension et des fluctuations de température.
Il surveille attentivement l'évolution de la situation, alors qu'à présent les températures dépassent en plus par endroits les 48 degrés.
Évidemment, cela a un impact important sur la santé des citoyens et il est probable que certaines personnes perdent la vie. Parfois, le soleil est au zénith, la déshydratation menace et tout cela peut clairement conduire à une situation critique.
Il alerte contre les causes d'aggravation du phénomène dans l'espoir de voir changer les politiques publiques.
Le principal problème est la destruction des terres agricoles et leur transformation en complexes résidentiels. C'est un facteur problématique en raison de l'augmentation de la population, du nombre de voitures et du recours accru aux générateurs présents dans les rues irakienne.
Faute de stratégie à long terme, les étés irakiens s'annoncent toujours plus irrespirables. Marie-Charlotte Roupy, Bagdad RFI.
Réinterpréter la Convention européenne des droits de l'homme pour se montrer plus ferme envers l'immigration, c'est ce que réclame une lettre ouverte signée hier par 9 pays européens, dont l'Italie, le Danemark et la Pologne. Le texte ne le dit pas comme ça, il parle de rétablir un juste équilibre, mais l'objectif fait peu de doute au vu des positions très fermes des pays signataires. Pourtant, les migrations apportent leur lot de bénéfices. En témoigne cette étude de l'INSEE, l'Institut français de la statistique, selon laquelle les migrants arrivant en France sont de plus en plus diplômés, Marie Cazadebé.
L'Afrique est désormais le premier continent d'origine des immigrés qui arrivent en France. Elle représente 45% des entrées. La moitié de ces immigrés africains viennent du Maghreb. On retrouve loin derrière les Comores, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. L'immigration européenne est en revanche en net recul. Elle représentait 44% des arrivées en 2006 contre 28% en 2023. Des immigrés toujours plus qualifiés. Aujourd'hui, une personne de plus de 25 ans sur deux est diplômée. C'est chez les immigrés africains que la progression du niveau de formation est la plus forte ces dernières années. Et une fois en France, un immigré sur trois trouve un emploi dans l'année. Ce sont les Européens qui ont le plus de facilité. Plus d'un sur deux travaille dans les 12 premiers mois de son arrivée.
Les précisions de Marie Cazadebé pour refermer ce journal. Il est 5h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.